Bible dans 2 Corinthiens chapitre 8. Donc on arrive là dans cette section des chapitres 8 et 9 de cette épître. Il y a un thème qui est abordé dans ces deux chapitres. Il s'agit de l'argent. Il est question des dons, il est question des offrandes et du rapport que nous entretenons avec l'argent. Mais il y a un verset dans ces deux chapitres qui a particulièrement attiré mon attention, c'est le verset 9 du chapitre 8. Il est dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Je vais me contenter de ce verset ce matin, mais je dois vous dire que je tremble un peu et je me sens incapable de transmettre toute la profondeur qu'il y a dans ce verset. Et comme dans ces deux chapitres, il est surtout question de notre rapport à l'argent, j'aurais aimé prêcher sur ce sujet parce que je crois que c'est un sujet que je connais bien. Mais ce verset s'est imposé à moi et le Seigneur m'a attiré vers cette parole comme par un aimant. Et je crois que si je n'avais pas parlé du Seigneur Jésus, qui est le sujet de ce verset, je serais passé à côté de l'essentiel. Et si je vous dis que je tremble, c'est parce que c'est un sujet qui nous dépasse vraiment. Dans ce seul verset, il y a une profondeur incroyable. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé en pleine mer, mais dans l'eau, à regarder avec un masque ce qui se passe au fond ? On ne voit pas le fond, c'est quelque chose de vertigineux et on peut avoir la même impression une fois quand on regarde le ciel. On ne voit pas de limite et il y a quelque chose qui est prêt à nous couper le souffle. Et c'est pour ça qu'il y a une telle profondeur dans ce verset. Je n'arriverai pas à transmettre tout ce qu'il y a à l'intérieur et mes mots seront pas suffisant pour faire le tour de la pensée de Dieu, parce que dans ce verset on va toucher au cœur de Dieu, à la pensée de Dieu. Mais malgré tout, je vais essayer d'en tirer quelques pensées nourrissantes pour nous ce matin. D'abord en voyant que notre Seigneur s'est fait pauvre, et puis on verra ensuite ce que sont la vraie richesse et la véritable pauvreté au sens où l'entend l'Évangile. Et je terminerai par vous posant une question et en adressant une exhortation. Et d'abord, le Seigneur Jésus qui s'est fait pauvre. Il y a des choses dans la Bible qui nous dépassent et qui sont véritablement incompréhensibles pour l'homme. Et le fait que le Sauveur du monde se soit fait pauvre, ça fait partie des choses qui nous dépassent et que l'homme naturel ne peut pas comprendre. On ne peut pas le comprendre parce que dans le monde, un homme, quelqu'un qui est riche et qui se fait pauvre, volontairement, c'est fou. Dans notre pensée, celui qui réussit, c'est celui qui est fort. Celui qu'on admire, c'est celui qui est riche. Et si vous me pardonnez cette comparaison, le cheval sur lequel on mise, c'est celui sur lequel on pense qu'il y a le plus de chances de gagner, à nos yeux. Aux yeux du monde, il est complètement fou de se défaire de ce qu'on a. Et celui qui donne quelque chose, alors qu'il aurait pu vendre, dans notre société, c'est un fou. Mais la Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre, alors qu'il était riche. Le Fils de Dieu qui est éternel. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est l'alpha et l'oméga. Il possède la gloire et l'immortalité. Devant lui, les hommes et les anges se prosternent et adorent. Et même les séraphins se cachent le visage parce qu'ils ne peuvent pas contempler la gloire du Dieu saint. Et quand les hommes voient cette gloire, ils tombent comme morts. Dans le psaume 24, il est écrit qu'à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, nous y compris. Dans Colossiens, on lit que tout a été créé par lui et pour lui. Il n'est pas servi par des mains humaines, mais ce sont des anges magnifiques qui le servent. Et il est le Dieu bienheureux, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien ni de personne. Et ce Dieu-là s'est fait pauvre. Voilà l'esquisse que je peux brosser de cette pauvreté, de cette richesse du moins, que le Seigneur avait avant son incarnation. Et la Bible nous dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Mais il faut savoir en quoi consiste cette pauvreté. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens 2, nous allons lire les versets 6 à 8. Il est écrit au sujet du Seigneur, qu'existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tout ce qu'il avait, la gloire divine qui l'entourait, l'adoration des anges, il s'en est dépouillé. Il y a renoncé, il est venu en tant qu'homme. Mais son appauvrissement ne s'arrête pas là, parce qu'en venant en tant qu'homme, il aurait pu venir en tant que roi. Rien que là, ça aurait été un abaissement. Venir en tant que roi, il aurait reçu les honneurs des hommes, une gloire terrestre et la richesse, mais même à ça, il y a renoncé. Dit qu'il s'est fait serviteur. Je ne sais pas si on se rend compte, il aurait pu avoir la terre entière à ses pieds. Il l'aura un jour, mais lors de sa première venue, il aurait pu avoir la terre entière à ses pieds, mais il y a renoncé. Il s'est dépouillé de cela. Et quand on lit les évangiles, on voit qu'il parcourt la terre d'Israël. La seule possession qu'il ait, ce sont ses vêtements. Et il va même pouvoir dire, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Mais là encore, il est allé plus loin dans l'appauvrissement. Parce que le plus grand appauvrissement qu'il ait vécu, c'est la mort de la croix. Lui qui est la vie, il a connu la mort. Il dit aussi, je suis la lumière du monde, mais il est mort dans les ténèbres. Il est saint, sans défaut, sans tache, absolument parfait. Mais à la croix, il a été fait péché pour nous. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans la personne du Seigneur, et en particulier quand on contemple la croix, quelque chose qui contredit l'intelligence humaine, qui contredit la raison. Celui qui avait tout a été fait péché. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le verset sur lequel je prêche ce matin dit qu'il s'est fait pauvre. Personne ne l'a dépouillé. Personne ne lui a rien enlevé. Personne ne lui a volé le moindre centime. C'est volontairement qu'il s'est fait pauvre. Et autant j'ai eu du mal à esquisser cette pauvreté, le contraste qu'il pouvait y avoir entre cette richesse qu'il avait au ciel et cette pauvreté qu'il a eue sur terre. Mais quand on en arrive au fait que tout cela a été volontaire, il y a quelque chose qui va nous dépasser encore plus, parce que là, on arrive au sentiment de Dieu. Personne ne l'a dépouillé volontairement. Il a renoncé à tout cela. Qui peut dire qu'il aime comme Jésus-Christ aime, parce que tout cela, il l'a fait par amour? Qui peut dire que spontanément, il va aimer comme Christ a aimé? Personne, parce que nous, quand nous aimons, et quand on aime, c'est toujours imparfaitement, mais on aime en imitation de quelqu'un, sous l'inspiration de quelqu'un. Mais qui est venu dire à Christ, dépouille-toi, renonce, tu devrais faire ça, ce serait une bonne idée? Non, c'est spontané. Ça s'est trouvé naturellement dans son cœur d'aimer comme cela. Et quand je commence à plonger dans ces pensées-là, à me dire, oui, Dieu est amour, il est spontanément amour, et Christ est venu volontairement s'appauvrir pour moi. Les mots sont insuffisants, et je peux dire la même chose que l'apôtre Paul dans Romains 11, « Ô profondeur de la richesse, de la science et de la sagesse de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ?» Alors oui, la Bible dit que Christ s'est fait pauvre, dit que sa pauvreté nous a enrichis. Il avait tout, il avait besoin de rien, mais il est venu par amour se faire pauvre pour sauver un misérable comme moi. Mais il nous faut expliquer ce que veut dire devenir pauvre. Il nous faut expliquer ce que signifie être pauvre et ce que signifie être riche dans le langage de l'Évangile. Parce que si vous regardez sur votre compte en banque en espérant ce type d'enrichissement de la part du Seigneur, je dois vous dire que vous allez repartir déçu. Parce que Christ n'est pas venu pour nous enrichir en euros ou en dollars, et j'ose même dire qu'il n'est pas venu pour améliorer nos conditions de vie. Bien sûr, ce sont des choses qu'il peut faire, parce que, je l'ai dit, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, il peut tout nous donner. Mais ce n'est pas de cette richesse-là qu'il est venu nous enrichir. Et il sait que ce type de richesse n'a pas le pouvoir de nous rendre heureux, parce que tout l'or du monde ne peut pas payer le prix de la vie éternelle. À qui est-ce qu'on donnerait cet argent? Je vais faire appel à votre imagination. Imaginez ce pauvre homme. Alors je dis qu'il est pauvre, mais en fait il a plus d'argent sur ses comptes que vous n'en aurez jamais dans toute votre vie. Mais il est pauvre parce qu'il est sur un lit d'hôpital. La fin de sa vie arrive. Il agonise. Et à mesure que ses forces diminuent, il y a son angoisse qui augmente parce qu'il sent que la mort approche. Il n'a aucune certitude. Il ne sait pas où il va. Pour lui, tout va s'arrêter. À qui, à quel médecin va-t-il donner son argent pour avoir la vie éternelle? Il peut être riche à millions. À quoi est-ce que ça va lui servir dans ses derniers instants? Tout son argent ne peut même pas lui apporter une fin sans douleur. Tout son argent ne peut pas lui apporter la paix. Et même s'il a gagné tous ses euros, tout cet argent, même s'il a travaillé dur pour les avoir, cet homme peut se rendre compte dans ses derniers instants, et on s'en rend compte avec lui, qu'il n'est pas riche. Il n'est pas riche, il est pauvre. Il est comme l'homme de la parabole dont les terres avaient beaucoup rapporté, et qui s'était dit en lui-même, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, j'abattrai mes greniers et j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais la Bible nous dit que Dieu a interpellé cet homme et lui a dit « Insensé, tu es fou, parce que cette nuit même, ton âme va t'être redemandée et tout ce que tu as préparé, à qui est-ce que cela va servir ?» Et le jugement tombe. Il en est ainsi de celui qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que vous êtes riche pour Dieu ? C'est aux yeux de Dieu qu'il faut être riche. La monnaie terrestre n'a aucun cours dans le ciel. Je me souviens d'une collègue, Crédit Agricole, qui était princesse du Cambodge. Et elle a retrouvé un jour dans son grenier des coffres, un coffre, rempli de billets de banque, des billets d'une très forte somme. Rempli. Elle est venue nous les montrer au travail. Elle dit, tout ça, ça ne vaut plus rien. Il y en avait pour des millions et des millions. Mais cet argent n'avait plus cours. Au ciel, l'argent n'a pas cours. La seule richesse qui a cours au ciel, c'est celle qui vient du Seigneur Jésus. Parce qu'il s'est appauvri pour nous enrichir. Ce qui compte au ciel, les trésors qui ont de la valeur dans le ciel, c'est la sainteté, la gloire, l'immortalité, l'honneur. Christ a quitté le ciel pour que nous puissions y aller. Il est mort comme doivent mourir les pécheurs pour que nous puissions vivre comme des saints. Et c'est ça la vraie richesse. Jésus en parle comme d'un trésor caché dans un champ. Il dit que l'homme qui a trouvé ce trésor le cache, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Parce que les richesses du ciel, elles méritent qu'on se dépouille de tout ce qui peut faire la richesse d'un homme sur cette terre pour posséder la seule richesse de l'évangile. Alors s'il y a une richesse sur cette terre qui vous empêche de venir à Christ, séparez-vous-en. Parce qu'elle ne pourra pas vous sauver. Au moment de passer dans l'éternité, à quoi cette richesse va vous servir ? Vous savez, on peut même supporter la pauvreté ici, maintenant, et être heureux. On peut être pauvre ici, mais être riche. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse à l'église de Smyrne, « Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Dans cette église, les gens étaient probablement pauvres. On ne sait pas exactement à quel point, mais peut-être qu'ils se demandaient de quoi aujourd'hui allait être fait. Ils n'avaient même pas le loisir de se demander de quoi demain allait être fait, parce qu'aujourd'hui était déjà incertain. Mais ils étaient riches. Ils étaient riches dans le Seigneur, parce qu'ils connaissaient Christ. Et c'est aussi de ces personnes-là que Jacques parle quand il dit que les pauvres, aux yeux du monde, Dieu les a choisis pour qu'ils soient riches en la foi et qu'ils soient héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qu'il aime. Et c'est vrai qu'on peut être pauvre aux yeux de ce monde, on peut être dans la misère la plus noire, mais être plus riche qu'un milliardaire. Notre banquier peut rire de nous, mais Dieu peut se rire de ce banquier. Peut-être que c'est notre compte bancaire qui crie tous les jours famine. Peut-être que vous avez du mal à finir le mois. Mais si vous avez Christ, eh bien réjouissez-vous parce que vous êtes riche, riche, et que le Seigneur même vous accorde une grande bénédiction. Et si vous vous considérez comme pauvre financièrement, sachez que cette pauvreté-là, elle n'est rien à côté de ceux qui sont pauvres des choses du ciel. Vous savez, les gens riches sont souvent insouciants par rapport aux choses de Dieu, parce qu'ils pensent que leur argent les met à l'abri. Ils pensent que leur argent est comme une muraille qui va les protéger en cas de besoin. Mais ça, c'est une situation qui est vraiment dangereuse. Le Seigneur dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il fait la perte de son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? Quand on incarne à Christ dans sa vie, au contraire, on est riche. Vous savez, ces richesses, l'argent, l'or, les bijoux, les pierres précieuses, les tableaux, les sculptures, tout ça, ce sont des choses qui s'abîment, qui peuvent être volées, ou simplement qui peuvent disparaître parce qu'on les dépense. Mais celui qui a Christ dans sa vie ne sera jamais pauvre. Qui peut lui dérober Christ ? Et qui peut altérer cette richesse ? Le salut que Christ nous a donné, qui pourra le flétrir ou l'abîmer ? Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette richesse-là, la richesse du ciel, quand on la partage, eh bien on devient plus riche. Si je vous donne 100 euros ce matin, c'est 100 euros que j'ai en moins. Mais si je partage Christ avec vous ce matin, eh bien je m'enrichis. Parce que je suis comme l'apôtre Pierre qui allait au temple, il a senti qu'on l'attrapait par le bord de son vêtement, il a vu un pauvre boiteux qui était là à l'entrée du temple. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre n'avait ni argent ni or, mais la seule richesse qu'il avait, il l'a partagée avec quelqu'un. Il ne s'est dépouillé de rien, mais il en a enrichi un autre. Et il a même apporté un trophée à son maître dans le ciel. Et voilà la vraie richesse qui ne s'use pas. La richesse dont on ne peut jamais être dépouillé. La richesse du ciel. Et Christ s'est appauvri à nos yeux, aux yeux du monde, pour pouvoir nous donner cette richesse-là. On peut même dire qu'il s'est dépensé sans compter pour que nous, nous n'ayons rien à payer. Parce que le prix de notre péché, il l'a payé entièrement. Entièrement sur la croix. Nous ne sommes plus redevables d'un euro. La justice divine ne peut plus nous poursuivre. Vous savez, quand vous avez une dette sur cette terre, votre créancier peut vous poursuivre jusqu'à l'extinction de la dette. Il va envoyer des huissiers pour vous poursuivre. Il va vous faire un procès pour poursuivre votre argent. Tant qu'il y a une dette, vous êtes redevable. Mais Christ a payé la dette en entier. Et à partir du moment où vous avez payé le dernier euro de cette dette, vous êtes libre à l'égard des huissiers dans notre monde. À partir du moment où Christ a payé jusqu'au dernier de vos péchés, vous êtes libre à l'égard de la justice de Dieu qui plus jamais ne va vous poursuivre. C'est pour ça qu'on peut venir à Christ sans rien. J'ai dit on peut, on doit venir à Christ sans rien, sans argent, sans rien payer. Comme c'est écrit dans Ésaïe 55, que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire cela ? Viens acheter sans rien payer. C'est même plus des soldes. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça, offrir. J'arrive à la troisième partie, à la question que je vous ai promise et à l'exhortation. Si votre Bible est toujours ouverte dans 2 Corinthiens, chapitre 8 et verset 9, le verset de notre prédication. Car vous connaissez la grâce. Mais je vous demande, est-ce que vous connaissez cette grâce ? Voilà ma question. Est-ce que vous la connaissez ? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Je sais que plusieurs vont spontanément répondre oui, mais avant de donner une réponse, j'aimerais que vous réfléchissiez et que vous écoutiez attentivement, parce que vous savez, il y a des personnes qui sont familières avec la Bible. Il y a des personnes qui côtoient le monde évangélique, les milieux chrétiens ou dits chrétiens depuis des années. Il y en a qui sont tombés dedans quand ils étaient petits et qui viennent à l'église depuis longtemps. Ils connaissent bien le langage de la Bible. Il y a même des passages qu'ils connaissent par cœur, mais ils ne connaissent pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. ne connaissent pas le don gratuit de Dieu. Ils vivent dans une habitude religieuse, et cette habitude va procurer une certaine sécurité. Mais dites-moi, ce que va devenir cette sécurité au jour où il faudra paraître devant Dieu ? Si vous êtes dans ce cas, si vous vous reconnaissez ce matin, qu'allez-vous dire à Dieu quand vous serez devant lui ? J'ai lu la Bible. Je suis venu à l'église. Je connais des passages par cœur. Je connais même les numéros des cantiques. Mais Dieu vous dira : je ne vous connais pas. Tu ne connais pas la grâce de Dieu. Je ne te connais pas non plus. Si ce sont vos seuls arguments pour entrer au paradis, attendez-vous à recevoir cette réponse de la part de Dieu. Et puis je pense également à ces personnes que l'on voit très intéressées par Dieu, par les choses de Dieu, par la parole de Dieu, qui viennent à beaucoup de réunions, qui font de leur mieux pour être une bonne personne dans la vie, qui participent aux activités de l'Église et à des œuvres sociales. Oui, mais n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Et au final, tout ce qu'elles font dans leur cœur sert de monnaie d'échange avec Dieu pour gagner une place au ciel, parce qu'elles n'ont pas reçu la grâce, le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Et au fond, elles n'ont pas la paix, elles n'ont pas l'assurance, se demandent toujours : mais est-ce que j'en ai fait assez ? Est-ce que Dieu ne m'en demandera pas un peu plus ? N'ont pas la paix parce qu'elles se reposent sur ce qu'elles font et pas sur ce que Christ a fait. Et si vous vous reconnaissez ce matin, sachez que la réponse que Dieu vous fera est celle que l'apôtre Pierre a fait à Simon le magicien qui voulait payer pour recevoir le don de Dieu. Il lui a dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait être acquis à prix d'argent. Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Nous ne pouvons pas acheter ce que Dieu veut donner gratuitement. Et c'est même une insulte faite à Dieu que de vouloir acheter ce qu'il a décrété vouloir offrir. Je pense à une autre personne, mais qui, elle, se sent accablée par son péché. Elle se sent misérable. Elle se sent sale et lourde. Elle a vécu dans le péché depuis tellement d'années, dans la débauche, qu'elle se sent salie jusqu'au fond de son être et qu'elle se demande si Dieu pourra l'accepter. Elle regarde aussi avec envie ceux qui ont reçu cette grâce et qui sont heureux, qui sont joyeux. Mais elle se sent trop pécheresse pour être accepté par Dieu. Mais quand Dieu fait grâce, est-ce que sa grâce ne doit pas dépasser la grâce des hommes ? Vous savez, quand nous on fait grâce, on est comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui pensait que pardonner 7 fois en un jour, c'était déjà le summum de la bonté. Vous savez ce que le Seigneur lui a répondu ? Je ne te dis pas de pardonner 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En une seule journée, le pécheur qui est repentant et qui vient demander pardon. Le Seigneur est riche. Oui, il est riche en miséricorde. Il est riche en bonté. Et il pardonne abondamment. Ça, c'est un trésor qu'il est prêt à nous offrir, et qu'il ne se lassera pas de débourser pour nous. Il sait qu'on peut venir des centaines de fois par jour pour demander pardon. Il sait qu'on est tellement souillé, que le péché a pris une part tellement importante dans tout notre être, qu'on pourrait même passer la journée à genoux à demander pardon, et que les pensées impies succéderaient aux pensées impies. Mais sa grâce nous libère, parce qu'il est venu nous accorder le pardon plein, entier, total, la rémission de nos dettes. Alors peut-être que vous n'êtes dans aucun des trois cas que je viens de citer, mais que vous vous dites quand même que non, vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu, que vous ne savez pas ce que c'est que ce don gratuit, et que par conséquent vous êtes pauvre et sans certitude. Mais alors venez à Christ. Venez à Christ, sans rien, sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, dit le Seigneur, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Sur la croix, Jésus-Christ a crié « Tout est accompli !» On a retrouvé la même inscription en grec, vous savez où ? Sur des factures. Sur des factures. Tout est payé. La dette est éteinte. Alors vous pouvez venir, il vous donnera le salut. Il a déjà tout payé. Mais si vous essayez d'apporter vos bons sentiments, vos bonnes œuvres, ou même votre argent, ça ne marchera pas. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire, et je terminerai avec cela, c'est recevoir par la foi ce qu'il a promis de donner. Il a dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Amen. Nous allons prier.